Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Lorsque je suis arrivée dans la capitale, j'aurais voulu devenir une femme fatale.
Bonjour à tous et à toutes, c'est Jennifer Padjemi, bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 2 de Miroir Miroir. Aller à l'étranger et demander aux gens ce qu'ils ont en tête quand on évoque la femme française. Il y a de fortes chances pour qu'ils vous répondent, une grande femme belle au naturel, élégante, mince, avec tout ce qu'il faut de subtilité pour la rendre romantique et chic à la fois, et qui habite forcément à Paris intramuros. La Parisienne fait vendre, la Parisienne fait rêver, mais qui est-elle vraiment? Est-ce qu'elle doit forcément être blanche, mince et hétéro pour qu'elle puisse correspondre à ce qu'on attend d'elle? Comment ce mythe a été créé et pour qui? Comment ce stéréotype a-t-il renforcé l'image d'une France non diverse? Et comment faire pour qu'elle ne soit plus la seule étiquette qu'on impose à la femme française? Autant de questions qui se posent à l'évocation de ce terme. Je suis donc aujourd'hui avec Alice Pfeiffer, journaliste de mode spécialisée en gender studies, pour répondre à toutes ces questions, puisqu'elle vient de sortir aux éditions Stock « Je ne suis pas parisienne » où elle s'attaque à la déconstruction de ce mythe. Salut Alice.
Salut Jennifer.
Je te connais un peu, puisque tu es chef de rubrique style aux Un Rock, magazine pour lequel j'écris de temps en temps, donc on va se tutoyer.
Merveilleux.
Merci d'être avec moi aujourd'hui.
Mais merci à toi.
Donc tu viens de publier aux éditions Stock « Je ne suis pas parisienne », où tu t'interroges sur la manière dont on a érigé le mythe de la parisienne, qui est souvent, pour résumer, blanche, mince, hétéro, et on l'oublie aussi souvent, riche, valide, en bonne santé et qui habite, disons-le, dans des quartiers très spécifiques. J'ai envie de savoir, est-ce qu'on est ou on devient parisienne?
C'est comme tout carcan, est-ce qu'on est dans un carcan ou pas? Je pense que le carcan, on le subit souvent, on l'accepte consciemment ou pas, et on joue avec et on essaie de le déconstruire tout au fil de sa vie. Donc je pense qu'on peut naître sur papier parisienne, mais une parisienne avec un grand P, comme le mythe qu'on connaît, je pense que personne ne l'est naturellement, tout comme toute identité genrée est une construction. Donc la parisienne est une construction au même titre qu'être une femme est une construction aussi.
Parce que dans le livre, tu parles que tu as remarqué un changement à ton retour en France, après avoir fait toutes tes études en Angleterre. Depuis là-bas, quelle est l'image que tu en avais ?
Alors c'était très étrange parce qu'il y en avait deux à la fois. Il y avait d'une part mes copines de l'époque qui venaient de Paris, qui s'habillaient à peu près comme tous les adolescents au monde, qui avaient, c'était quoi la mode ? Je vais révéler mon âge, mais qui étaient habillées en skater ou en gothique, entre guillemets. Et de l'autre, les publicités que je voyais dans l'Eurostar, où là c'était toujours des images de grandes femmes très minces avec un carré de soie autour du cou et un chien et une baguette sous le bras. Donc j'avais beaucoup de mal à relier les deux entre ce que je voyais de mon expérience personnelle, de Malaco Fiot, mais qui avait été à l'école à Paris, et l'image commerciale que l'Angleterre semblait en avoir. Quand on en voyait dans les films, quand j'en voyais dans les pubs de parfums, qui s'appelaient tous Paris Je T'aime, qui avaient tous une... C'était toujours une fille de 12,5 kg suspendue à la Tour Eiffel en train d'attendre son amant. Je t'aime, Paris mon amour, Paris... Enfin, tu voyais le genre, donc... Mais je comprenais pas le lien où en fait... Les Anglaises et les Françaises de l'époque ont une plus grande connivence culturelle que nationale. Donc on était aussi identifiés comme tous les ados du monde à nos goûts de musique, aux sous-cultures qui nous parlaient de l'époque et beaucoup moins la Tour Eiffel. Et on essayait encore moins de grimper dessus.
Mais aujourd'hui, concrètement, elle ressemble à quoi cette Parisienne ?
Alors, celle que je connais ou celle que j'ai remarquée ?
Les deux.
Celle que je connais, elle a l'air, en fait, elle est absolument mondialisée. C'est une Parisienne qui parle anglais, qu'elle a appris sur Internet, qui galère parce qu'on galère tous, pour qui le pass Navigo est trop cher, qui fait des fripes, qui habite peu en Paris intramuros ou pas loin.
C'est nous, quoi.
C'est nous, ouais. C'est qui est quelqu'un qui a un stage déguisé en emploi, non ou le contraire. Enfin bref, donc c'est la réalité d'une métropole en crise, quoi. Et celle qu'on voit, bah elle est inchangée depuis les années 60. Ça reste une fille très mince qui prétend être jeune ou qui une femme enfant ou une enfant tout court, qui a toujours un caniche peut-être, qui a un vélo avec un panier, qui a des robes comme des tables de cuisine. Non, pas comme des tables, pardon, comme des nappes de table de cuisine. Et qui ne change pas d'année après année, qui ne se coiffe pas les cheveux, qui flotte dans son boyfriend jean. Et on en reparlera de ce fameux boyfriend jean. Donc elle a donc un boyfriend dans les parages. Tout ça pour dire que je la connais pas très bien, hein, comme vous pouvez l'entendre. Et je l'ai pas encore rencontrée. Et je vis à Montreuil et je travaille à Paris. Et je la cherche toujours parce que je l'ai toujours pas vue.
Ton constat part notamment de l'expertise que tu as en gender studies. Selon toi, pourquoi ce mythe concerne spécifiquement les femmes ?
Parce que je pense que l'homme, c'est le regard du patriarcat invisible, c'est l'homme dominateur, c'est le... Ça va être très chic comme ça, mais j'ai lu Michel Foucault tôt. Avant de faire des gender studies, je faisais des cultural studies. J'avais étudié toutes les théories du panopticon, du panoptique. Et on parle du regard invisible de la surveillance. Et je pense que l'homme, c'est celui qui surveille de façon invisible et qui régule les femmes au point qu'elles s'autorégulent. Et il dit un truc super intéressant. Il dit qu'aucun exercice de surveillance n'est aussi puissant que si la surveillance est internalisée et appliquée par le surveillé lui-même, au point que le garde peut même disparaître. Parce que la personne est dans un exercice d'autocontrôle permanent. Je pense que l'homme est le patriarche dominant qui surveille et que les femmes sont l'objet de cette surveillance.
Dans l'imaginaire, les figures de proue de la Parisienne vont d'Inès de la Frissange à Charlotte Gainsbourg. Et aujourd'hui, on a des personnalités comme Jeanne Damas, un peu plus jeune, et sa marque Rouge, qui surfent superbement sur ce mythe, dont les tailles s'arrêtent même aux 42. Est-ce que la Parisienne ne doit surtout pas être grosse ?
Moi, je pense qu'effectivement, dans le mythe de la Parisienne, il n'y a absolument pas de place pour des femmes qui font plus qu'un 40. Quoi. C'est un mythe qui est profondément grossophobe. Je pense que symboliquement, comme physiquement, c'est une façon de ne pas occuper trop d'espace et pas plus d'espace que l'homme. Donc, ce sera toujours une femme qui va être plus mince que monsieur, parce qu'il y a forcément un monsieur. Et c'est une promesse de ne pas dominer à aucunement. Ça va aussi à ne pas parler trop fort, ne pas trop manger, faire des choses de façon délicate.
C'est des codes de conduite.
C'est des codes de conduite. Et ça prouve... Cette minceur rachitique prouve qu'on est jeune à tout jamais, donc c'est une maigreur presque enfantine que perdent la plupart des enfants une fois qu'elles arrivent à un âge un peu plus mature. Mais c'est aussi une promesse de bien se conduire, de manger comme il faut, de restrictions permanentes en fait. Et c'est une preuve du contrôle qui est exercé par l'homme en permanence.
Il y a quelque chose qui m'a toujours frappée, c'est le fantasme autour du corps et du physique des femmes françaises. Donc dans ton livre, tu rappelles les ouvrages de Mireille Gigliano, une autrice franco-américaine qui a écrit « French Women Don't Get Fat », donc les femmes françaises ne grossissent pas, et rebelote des années plus tard, en 2014, « French Women Don't Get Facelift », donc les femmes françaises ne font pas de lifting, avec cette idée que toutes les femmes françaises seraient naturellement minces et vieillissent sans se faire de botox en assumant parfaitement leur âge. Donc par exemple, dans un article du Vanity Fair intitulé « Le retour de la femme française », pour la sortie de ce livre, elle disait, je cite, « Marcher, c'est ce qui fait une femme française. Nous marchons partout. Je vois de nombreuses françaises monter les escaliers et non prendre les escalators. Je dirais que marcher et parler sont les nourritures de l'âme pour vieillir avec élégance. L'eau est le remède anti-âge le moins cher et la marche est le suivant. » Quand je lis ça, je me demande s'il ne faudrait pas parfois le prendre au second degré finalement, ou si ça illustre juste un certain microcosme parisien qui fait que certaines personnes vivent vraiment de cette manière.
Alors, s'il y en a, je ne les connais pas encore. Ça voudrait nous faire croire qu'on est tous des idiots, qui sont tous tombés dans l'exercice de la consommation et qu'on passe tous par des régimes et des salles de sport pour maigrir, alors qu'il y aurait une façon surhumaine de le faire et qui serait un retournement presque charnel et instinctif aux premiers besoins de la vie, qu'on a juste besoin de marcher et de boire de l'eau. Enfin, on a l'impression qu'il décrit une femme Cro-Magnon, là, en fait, mais sur des talons. Donc, moi, je ne connais pas de femme qui est intouchée par des calories, je ne connais pas de femme femme qui maigrit parce qu'elle a bu. Enfin, on boit tous de l'eau, non? C'est complètement absurde. Et on marche tous avec nos pieds. Ça n'a pas de sens, cette phrase. Tu vois ce que tu as? Il y a quand même un grand problème. Je ne comprends pas en quoi on serait différente. Je pense que les Américaines se déplacent également avec leurs jambes et boivent également de l'eau quand elles se lèvent le matin.
Complètement. Mais je me demande si ce n'est pas une affaire de classe sociale aussi.
Bah, ça
plus que de style.
Ça sous-entend une fille qui a donc un régime impeccable d'à côté, qui voyage avec qui fait des toutes petites distances aussi. Donc ça, le côté marché, ça sous-entend un Paris intramuros, c'est que et des autour de quelques arrondissements. Donc effectivement, c'est une femme qui bouge pas beaucoup, c'est une femme qui prend sûrement pas le RER, qui dépasse pas le périphérique. Et l'eau et le régime de l'âme, mais c'est... Je me demande à qui ils ont parlé, en fait. Mais ça, c'est une façon de dire toujours que les Français, il y a un retour au naturel, au charnel, et que donc c'est une façon d'essentialiser la parisienne. Et de dire qu'on n'y arrive pas de façon artificielle, entre guillemets, et qu'il y a une façon complètement simple et complètement... oui, je me répète, mais naturelle d'arriver à un idéal qui est complètement fabriqué.
Toujours en lien avec ce corps, ça m'a toujours amusé cette image qu'on avait de la femme française effortless, qui se lève le matin avec la peau, voilà, avec la peau pimpante, les joues roses, qui se brosse juste les dents, donc comme tu disais tout à l'heure, qui a un boyfriend jean, qui se coiffe à peine, qui met un t-shirt blanc, des boots et un peu de baume à lèvres, et sort, belle comme jamais. Et je me demande en fait en quoi les stéréotypes de la parisienne sont-ils excluants ?
En fait, de toute façon, quand on lit tous les codes de tous les manuels qu'il y a, ce ne sont que des codes excluants, parce que c'est des codes qui décrivent une femme. Une femme cisgenre, une femme jeune, une femme hétéro, une femme née dans le luxe. Par exemple, quand on me dit « oui, je porte le sac de telle ou telle marque, le sac Chanel de maman », bon, c'est une fille qui est née dans une famille qui avait déjà du Chanel. Une femme qui dit « flotter dans ses vêtements », c'est une femme qui est mince, donc c'est quand même profondément grossophobe, parce que c'est des codes qui sont que applicables à des corps tout minces. Le boyfriend jean, ça veut dire qu'il y a un boyfriend dans la maison. Et ça veut aussi dire qu'on est plus mince que lui, c'est parce qu'on flotte dans ses vêtements. Donc on est la petite chose fragile à côté de monsieur devenu viril grâce à notre maigreur comparative. C'est une fille qui se brosse pas les cheveux ou qui s'entretient pas les cheveux, c'est pas une fille qui a des cheveux crépus ou qui a les cheveux plus bouclés, qui demande un entretien particulier, qui se maquille pas du tout, encore une fois, ou qui porte juste du rouge à lèvres, c'est quelle carnation peut se permettre de porter tel ou tel rouge ou pas. Enfin, ça sous-entend quand même un teint diaphane. Donc non, on lit entre lignes effectivement une femme qui est mince, blanche, maigre... et qui a un fameux boyfriend invisible dans les parages.
Donc il y a du racisme, il y a de la grossophobie et une certaine hétéronormativité dans le concept de la parisienne.
Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, je ne suis pas dans le vent, c'est navrant, aucune bizarrerie, ça m'ennuie, pas la moindre affectation, je ne suis pas dans le vent.
D'ailleurs, il y a une catégorisation intéressante dans ton livre où tu parles de tous ces groupes de personnes qui sont soit l'antithèse de la parisienne, donc comme la cagole ou la madame tout le monde, qui, n'oublions pas, existe et qui aspire finalement à devenir potentiellement cette parisienne, mais aussi des catégorisations minoritaires comme les femmes noires, les femmes arabes, les femmes juives et les femmes queer, donc avec un festival de stéréotypes qui vont avec. Et un article de Slate paru en avril dernier avait pour titre « La vraie Parisienne est plus proche d'Aya Nakamura que d'Inès de la Frissange ».
Bien d'accord.
Donc en gros, ça parlait en fait du manque cruel de diversité dans ce stéréotype. Et l'autrice disait, je cite, « Parmi ces influenceuses populaires qui travaillent régulièrement pour des marques de luxe ou de fast fashion, pas une seule fille noire. Pourtant, une enquête de terrain sur la ligne 4 du métro nous prouve par A plus B que la Parisienne est bien métisse et diverse. Elle arbore parfois une manicure XXL, ne fait pas toujours du 38 et ose même porter des leggings en journée. Alors que tout le monde sait bien que c'est interdit, sauf si on a cours de yoga. Bref, elle ressemble plus à Rihanna qu'à Jeanne Damas. » En évoquant notamment Aya Nakamura, qui pour la journaliste incarne une nouvelle génération de femmes issues des minorités, est-ce que tu penses que c'est le cas et que Aya Nakamura peut être la voix un peu de la nouvelle parisienne?
Ah, mais pour moi, c'est exactement le pari que je vois. C'est-à-dire que c'est une fille qui a une répartie cinglante, qui s'assume, qui est une mère célibataire, ou si un garçon, on ne le connaît pas forcément, mais de toute façon, elle mène sa barque de façon très indépendante.
Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent. Je suis pas ta daronne,
je te fais pas la morale.
Elle est extrêmement drôle, elle a un argot qu'elle update en permanence. Non, pour moi, c'est vraiment Paris, en fait. Et Inès de la Fressange, c'est du papier glacé. On les voit plus du tout. Elles apparaissent encore dans les magazines, mais je connais aucune fille qui rêve de lui appartenir. Tout le monde connaît les chansons d'Aya Nakamura. Je veux dire, c'est que ce soit des soirées de mode comme des concerts. Elle charme tous les milieux, que ce soit des milieux populaires ou élitistes. Ça me rappelle presque la gouaille des titis parisiens qu'il y avait à une époque. C'est qu'elle elle est très très drôle, en fait. Et elle s'assume complètement. Et pour moi, c'est Paris, c'est ça aujourd'hui.
Donc il faudrait que les médias montrent plus des femmes comme elle.
Mais qui sont des vrais succès, en fait. C'est pas des succès fabriqués par la presse. Elle n'est pas mariée à quelqu'un qui lui a eu ce poste-là ou ce niveau d'ascension-là. Elle est arrivée ici grâce à son succès, sa personnalité. C'est le vrai succès, il est là. Il n'a pas été acheté par les annonceurs.
Et Lindsay Tramonta, qui est une journaliste américaine basée à Paris, elle écrivait un article pour le Glamour US pour présenter justement les femmes qui redéfinissent le style parisien, donc notamment sur Instagram avec une femme voilée, une femme grosse, des femmes racisées, etc. Donc moi, j'ai trouvé ça super. Et en même temps, je me suis demandé si Instagram n'était pas en train de recréer un nouveau mythe avec cette idée que Paris, même s'il est moins blanc et moins policé, et quand même fantasmé.
Ouais, Paris reste fantasmé, c'est vrai. Ça, je ne sais pas si c'est le fait qu'on soit dans une culture complètement trash avec Trump et qui fait qu'aujourd'hui on a l'air d'avoir un passé glorieux et une ville qui est intouchée, qui n'a d'ailleurs pas été bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'elle était si jolie. C'est une promesse de pérennité et de savoir-vivre et de savoir-faire que peu de monde, à l'heure de la globalisation, dont peu de monde peut se vanter aujourd'hui. Donc, Paris reste une carte postale et la femme fait partie de cette carte postale. Et c'est ce qui est problématique, c'est que ça reste une jolie ville. Et puis, mais c'est pas la seule jolie ville en France. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle ait plus d'attention que Bordeaux, Lyon, Rennes, Malakoff.
Est-ce que tu penses que c'est les Américains qui ont contribué à renforcer cette image de la Parisienne, ou si c'est nous qui l'avons aussi marketée à l'étranger?
Alors, je ne pense pas qu'il y ait de sens de « nous », entre guillemets, qui soit aussi conscientisé que l'Amérique qui nous réunisse tous. Parce qu'en France et à Paris, on se définit par beaucoup d'autres choses, d'autres facteurs qui ne nous réunissent pas tous. C'est-à-dire le quartier dans lequel on vit, le métier, la rive qu'on a choisie, la banlieue qu'on a choisie, ou pas choisie d'ailleurs. Non, je pense qu'il y a une prise de conscience que ça représentait un marché et une opportunité qui vient de l'étranger, qui a été mis en place par les groupes de luxe, qui accentuent ce côté, parce qu'il faut rappeler quand même que le tourisme et la consommation de luxe sont parmi les plus gros apports financiers au pays. Donc les groupes de luxe ont absolument accentué ça, et l'Amérique est en friande. On voit tous les films de Woody Allen qui ont des personnages comme Léa Seydoux qui réapparaît régulièrement trempée dans les films dans ses films où elle joue un personnage en 2D qui lit Sartre à longueur de journée.
Les films et aussi les séries, parce que par exemple, dans certains épisodes de séries comme Gossip Girl, quand ils viennent à Paris, c'est un Paris que j'ai jamais vu personnellement, où là, je voyais les premières images d'Emily in Paris, où je pense que ça va être un festival de clichés, et je me rappelle, je faisais la blague sur Twitter en disant « j'espère qu'elle va prendre le métro ». Et il y a un peu cette idée où on dirait que les minorités, qu'elles soient racisées ou des minorités sexuelles, en fait, on les voit jamais à l'écran quand on parle de Paris. C'est comme s'il y avait un effacement total du Paris d'hiver.
Bah, c'est le Paris autre, c'est le Paris que la cliente de luxe, est-ce que c'est sa faute à elle, n'est pas venue consommer. Ça prouve encore que dans l'inconscient collectif et dans l'image qu'on s'en fait de l'extérieur, ça reste cette même Parisienne qu'on a vue et qui ne se rend pas du tout compte de la réalité qu'est la France, qui est un pays à descendance coloniale qu'on a un pays hautement diversifié, tout autant que Londres, par exemple, mais qui Londres a une politique multiculturelle et nous une politique universaliste et laïque qui gomme toutes les différences, mais donc qui met en égérie principale, toujours cette même femme qui, soi-disant, pourrait parler à toutes les femmes. Qui prend en compte aucune pluralité. Et ça, c'est un grand problème, parce qu'on voit que quand on représente la Française typique, ça va être le contraire de la londonienne qui peut venir de partout et qui va avoir des cheveux violets, qui va être plus définie par ses goûts personnels. Là, ça va être, encore une fois, ce fameux savoir-vivre porté par une femme blanche.
Toi, tu voudrais que les gens comprennent quoi avec ton livre? Quelle est l'intention de ce livre?
Alors, je crois qu'il y a deux choses, moi, qui m'importent. C'est que, déjà, dans le livre, j'ai pas cherché à épingler, à faire la liste de toutes les personnes, à pointer du doigt. Parce qu'en fait, ça m'est complètement égal. Je veux dire, si des filles ont envie de s'habiller comme ça, très bien qu'elles s'habillent comme ça. J'aimerais juste comprendre comment ça s'adapte à d'autres normes. C'est-à-dire que comment une Parisienne qui a le cheveu crépus se coiffe, en fait? C'est quoi la Parisienne typique noire? Une Parisienne typique qui fait plus que du 38, comment est-ce qu'elle porte? Une Parisienne qui n'est pas hétéro, qu'est-ce qu'il n'y a pas de boyfriend jeans, bon, bah, à quoi ça ressemble du coup? Bon, évidemment, c'est toujours une question de est-ce que ça va recréer des nouveaux carcans, mais au moins j'aimerais pouvoir diversifier ce modèle, ou enfin, c'est très prétentieux dit comme ça, mais aider à le diversifier. Et de l'autre, qu'on soit fier de venir d'ailleurs que Paris, parce qu'il n'y a pas que Paris en France. Il y a énormément de grandes villes et de plus petites villes qui font beaucoup de choses et qui sont très actives culturellement, et qu'on puisse fièrement dire oui, je viens de Bretagne, et pas non, bah, je suis pas vraiment parisienne. Comme on sent cette légère gêne quand on demande aux gens s'ils viennent de là et qu'ils sont presque en train de s'excuser de leur origine, en train de gommer leur accent, parce qu'on est dans un pays qui souffre largement de glottophobie, donc de racisme ou de discrimination contre les accents.
Mais c'est vrai que dans ton livre, il y a beaucoup cet aspect aussi de comment ce mythe a aussi contribué à discriminer de manière parfois très méchante ou moqueuse d'autres personnes qui ne rentraient pas dans cette case. Comment ça s'est traduit ? Est-ce que tu as des exemples à nous donner comme
C'est plein de choses. Ça va être par exemple j'en parle dans le livre, mais dans les supermarchés, les shampoings labellisés cheveux normaux qui ne seront jamais des cheveux crépus ou des cheveux bouclés. Cheveux normaux, ça sous-entend toujours cheveux lisses. Ou ça va être, dès qu'on dépasse quelques teintes, les coins ethniques cornered chez Sephora. Ça va être effectivement les marques qui vont peut-être se vanter même d'avoir une certaine diversité, mais qui ne refusent de stocker les vêtements de grande taille dans les boutiques ou dans les flagship stores, comme on dit. Boutique amiral, boutique...
Oui, les pop-up stores.
Oui, qui se limitent à quelques tailles. Donc ça reste extrêmement scindant. Non, ça va être... Et corporellement... Et identitairement, ça va être un mépris de classe qui est complètement affirmé, parce que le seul accent qu'on entend à la télé, c'est un accent bourgeois.
Tu parles de la beurette, notamment, du concept de la beurette.
Du concept de la beurette, effectivement. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas... Il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas d'identité arabe en France qui ne passe pas par le sexuel et le dominé. Parce que le mot beurette, c'est la recherche numéro 1 sur YouPorn. Pardon, Pornhub. Non, c'est extrêmement blessant et ça rejette en fait la majeure partie des femmes.
Mais comment tu crois que le concept va évoluer dans les prochaines années?
En fait, avec la mondialisation, il y a quand même quelque chose qui s'est passé, c'est qu'il y a une communication globale de mouvements qui se passaient partout. C'est-à-dire que les révoltes body positive, toutes les notions d'empowerment, de revendication de soi, de fierté du corps, c'est quelque chose qui vient des États-Unis, mais qui a fait tellement de bruit qu'aujourd'hui, par les réseaux sociaux, on a quand même réussi à donner une place et faire entendre ces mots-là. Il y a les mots comme fat shaming qu'on utilise encore en français, mot empowerment qui est encore en...
Empouvoirement, sinon.
Empuissancement, oui, empouvoirement, j'ai entendu les deux. Mais je pense que c'est le bon côté de la culture Internet qui a quand même qui a emmené plein de filles à discuter avec plein d'autres filles à l'autre bout du globe. Et donc, ce n'était pas des personnes qu'on avait besoin de rencontrer physiquement. Avant, on se réunissait entre bandes physiques. Aujourd'hui, on a des bandes digitales qui nous rendent plus fortes.
Tu penses qu'un jour, on verra une femme voilée qui représenterait la Parisienne?
Ce serait merveilleux, mais on en est encore très loin quand on voit l'affaire du burkini où une femme était mise à poil sur la plage ou forcée de se déshabiller. On a encore des grands problèmes avec ce qui représente l'identité nationale française.
Est-ce que tu aurais des recommandations de livres ou de docu qui t'ont aidé, toi, à mieux comprendre ce phénomène pour t'en détacher au mieux?
Oh, plein. Moi, j'aime beaucoup Didier Ribon, qui a écrit Retour à Reims et qui dit que lorsqu'il a fait son coming out sexuel, il a fait son coming in social. Évidemment, Judith Butler, parce qu'elle parle de la déconstruction du genre et que ça s'applique à un modèle qui est intersectionnel également. Toute la pensée intersectionnelle de Kimberly Crenshaw est très importante parce que ça nous rappelle qu'on est à l'intersection d'une classe sociale, d'une ethnicité et d'un genre. Jill Lipovetsky, qui a écrit L'Empire de l'éphémère, La troisième femme est formidable aussi. Mona Chollet, tous les écrits de Mona Chollet dans Beauté fatale, par exemple, sont très bien. Moi, j'aime beaucoup Édouard Louis aussi. Donc, tous les gens qui ont écrit sur la question de la classe sociale et la question de l'ethnicité, il y en a peu encore en France, le font très bien.
Et ton livre, bien entendu. Merci beaucoup, Alice.
Merci beaucoup, Jennifer.
Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas pour toute remarque, suggestion. N'hésitez pas à partager l'épisode s'il vous a plu. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines. À bientôt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.